Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Je suis convaincu que votre cœur a été encouragé lorsque nous avons adoré le Seigneur en chantant et en priant. Et maintenant que nous arrivons au moment de l'adoration, nous regardons sa parole. Et ce passage devant nous aujourd'hui devrait en effet provenir de l'adoration et de la louange du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père. C'est un passage riche, fascinant, et qui vaut la peine. J'avoue que mon esprit se réjouit à cause de tout ce qui peut être dit à propos du bref passage que nous allons regarder ce matin. Et nous sommes un peu limités par le temps et par notre capacité à saisir des choses quelque peu complexes. Donc, ce que je veux vous encourager à faire, c'est de rester vraiment vigilant et de me suivre, d'éclaircir votre esprit, de mettre votre main sur la parole de Dieu et d'écouter attentivement, à cause de ce que je crois passionnant et merveilleux, la merveilleuse perspicacité dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous rappeler quelque chose de très basique, et nous devons commencer par ceci. Le but, l'objectif, le point culminant de la vie de Jésus-Christ était sa mort sacrificielle. Il est venu au monde pour mourir. Dans Marc 10:45, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ce n'était pas une modification du plan, c'était le plan. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une mauvaise fin, un bon début. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour les péchés du monde. Le sacrifice de Christ est le point focal de toutes les Écritures. Comme le dit un auteur, la mort de Jésus-Christ n'est pas la fin de l'histoire, c'est le thème de l'histoire du début jusqu'à la fin. Et si vous regardez, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous trouverez que les choses commencent déjà à être partagées dans l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre le sens de la mort du Christ, qui, à ce moment-là, est encore à venir. Par exemple, dans l'histoire d'Adam et Ève, nous apprenons d'abord que le sacrifice est nécessaire pour couvrir le péché. Et puis, dans les sacrifices de Caïn et Abel, nous apprenons que ce n'est pas seulement un sacrifice, mais un sacrifice type. C'est un sacrifice de mort. Au fur et à mesure que nous progressons un peu, nous arrivons à l'histoire d'Abraham. Et avec Abraham, nous apprenons que Dieu lui-même fournira ce sacrifice, car Dieu a fourni un animal à la place d'Isaac. Donc, au début, nous apprenons la nécessité du sacrifice. Ensuite, la définition du sacrifice comme sacrifice de sang. Puis, il y a l'idée que le sacrifice sera un substitut donné par Dieu à la place des hommes. Et comme nous en arrivons à la Pâque dans l'Ancien Testament, il nous est rappelé que celui qui est sacrifié sera sans tâche. Et tout cela nous prépare à Jésus-Christ, le sacrifice ultime, le sacrifice parfait, le substitut, le don de Dieu, l'agneau sans tâche. Nous entrons dans le Nouveau Testament. Et tout dans le Nouveau Testament se concentre sur la croix. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la croix est le thème. Dans chaque évangile, il occupe entre 30 et 40% du texte entier de l'évangile. Cette grande partie de l'évangile se concentre autour de la première semaine de la vie du Seigneur. Lorsque vous entrez dans le livre des Actes, par exemple, le livre des Actes est le récit de la réaction du monde à la mort et à la résurrection du Christ. Ensuite, vous allez aux Épîtres, et les Épîtres sont écrites à ceux qui croient, pour les instruire sur les implications de la mort et de la résurrection du Christ. Et quand vous arrivez au livre de l'Apocalypse, vous rencontrez l'agneau qui a été tué avant la fondation du monde, et qui reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ainsi tout dans l'Ancien Testament passe par la croix. Les évangiles se concentrent sur la croix, et le reste du Nouveau Testament traite les implications et les résultats de la croix. La mort de Jésus-Christ est donc le point focal de toute l'histoire rédemptrice, et ce n'est pas un accident, mais le sommet du plan de Dieu. Ainsi, en commençant par les animaux tués de la Genèse, dont la peau a été utilisée pour vêtir Adam et Ève, et en allant jusqu'à l'agneau immolé de l'Apocalypse, qui est vénéré dans la gloire et la majesté, la croix et tout. Par conséquent, en ce qui concerne Matthieu 26, 27 et 28, les trois derniers chapitres de l'Évangile de Matthieu, nous arrivons au climax de ce livre de la Bible. Voici le message majeur de Matthieu. Maintenant, rappelez-vous que la tentative de Matthieu tout au long de cet évangile et son succès merveilleux par le pouvoir de l'Esprit dans l'accomplissement de celui-ci consiste à présenter Jésus comme roi, souverain, majestueux, digne, glorieux. Matthieu est confronté à ce stade à une impossibilité humaine, c'est-à-dire comment maintenir la majesté, la dignité, la gloire de Jésus-Christ au milieu de sa trahison et de son exécution. Comment peut-il rester le Fils majestueux de Dieu tout en étant rabaissé et dégradé dans une trahison et une mort telle que sa mort? Et ce n'est que le problème que nous verrons dans notre leçon de ce matin. C'est merveilleux, c'est passionnant de voir, au milieu de cela, comment la gloire du Christ ne diminue pas, que sa majesté, sa dignité ne diminue pas. Bien au contraire, il semble plus majestueux, plus glorieux et plus maître, plus souverain qu'auparavant, à tout autre moment dans l'évangile de Matthieu. Et ainsi la table est complètement tournée dans ce que les hommes avaient essayé de le dégrader, mais il est d'autant plus exalté. Alors, à l'approche du chapitre 26, Matthieu commence à nous dévoiler cet événement glorieux de la mort et de la résurrection du Christ. Et il commence au chapitre 26 par une discussion des éléments de la préparation. Vous vous souvenez de mon dernier message, la semaine dernière, n'est-ce pas? Nous avons vu la préparation de Dieu au verset 2 du chapitre 26, comment Dieu avait établi le calendrier. Et tout se déroulait jusqu'à 2 jours du mercredi, le moment où notre Seigneur parle dans cette partie du chapitre. Et vendredi, le plan de Dieu arrive à son point culminant. Ainsi, la préparation de Dieu était déjà impliquée dans le verset 2. Ensuite, nous avons vu la préparation des dirigeants d'Israël, qui détestaient Jésus-Christ, au verset 3 à 5, et comment ils complotaient sa mort et cherchaient un moyen, un moment, un endroit pour l'éliminer. Ils avaient peur de le faire pendant les 8 jours de la fête des pains sans levain, à cause de la grande popularité de Jésus, à cause des foules attirées par lui. Ils craignaient une émeute, alors ils pensaient devoir attendre 8 jours de plus. Mais il se préparait déjà à exécuter Jésus-Christ. Donc cet élément de préparation est présenté par Matthieu. Puis au verset 6 à 16, nous avons vu la préparation de Marie, une disciple et amie aimée, oignant Jésus d'un parfum coûteux, lui déversant abondamment son amour et son affection, et voulant en quelque sorte le préparer pour la mort qui venait. Et elle représente tous ceux qui regardent la croix comme le moyen de leur salut, et qui ont vu quelque chose de glorieux, de merveilleux, de bienheureux. Et ainsi nous avons vu la préparation de Marie. Et ensuite, au verset 14 à 16, la préparation de Judas Iscariote, le traître, qui, avec de l'argent, s'est engagé, avec les dirigeants, à trahir Jésus-Christ, dans un moment clandestin et dans un lieu secret où la foule n'était pas présente. Il les informerait d'un endroit où Jésus pourrait être fait prisonnier, et il serait leur traître, pour ainsi dire, s'étant engagé dans le but de leur remettre Jésus pour l'exécuter. Ainsi, nous avons la préparation de Dieu, la préparation des dirigeants, la préparation offerte par Marie, la préparation de Judas. Tout cela nous mène à la réalité de la croix. Maintenant, ces 4 éléments de préparation impliquent d'autres personnes que le Christ. En arrivant au verset 17, vous commencez la section où Christ se prépare lui-même à sa mort. C'est sa propre préparation, et nous voyons la préparation de sa mort de plusieurs manières différentes. Premièrement, en partageant la Pâque finale, au verset 25, en établissant le repas du Seigneur, en aidant les faibles disciples, et enfin en priant le Père. Tous les 4 sont sa propre préparation. Nous avons donc 4 éléments de préparation par les autres, et 4 éléments de préparation par le Seigneur lui-même. Maintenant, nous allons commencer ce matin en regardant les versets 17 et suivants, et voir l'élément initial de la préparation. La Pâque, alors qu'il se prépare, a profité de ce repas avec ses disciples. Cela fait certainement partie de la préparation de sa mort, et vous le verrez au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, le rapport commence au verset 17 à 19, et nous n'irons pas plus loin ce matin. Nous continuerons la prochaine fois. Mais il y a tellement de choses que je veux que vous compreniez dans ce passage, et je ne veux pas essayer de pousser trop fort. Le récit commence au verset 17 à 19, avec ce que l'on peut appeler « choisir le temps ». La semaine prochaine, nous parlerons de partager la table, choquer les 12 et identifier le traître. Nous passerons au verset 25, et même au-delà, je crois. Mais pour l'instant, choisir le temps, c'est primordial. Cela peut ne pas sembler important, mais c'est absolument essentiel. Maintenant, commençons par regarder le texte, au verset 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz. » Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque, avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Maintenant, quand vous lisez cela, cela ne semble pas être des paroles très profondes. Mais, inhérent à ce texte, il y a une richesse qui m'a vraiment échappé pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je commence à approfondir un peu plus les éléments entourant cette merveilleuse occasion. Et je pense que vous aurez la même réaction également. Ces trois versets nous disent que Jésus voulait célébrer la Pâque, et que ses disciples étaient prêts à préparer cela, et qu'ils avaient fait quelques achats pour que cela se fasse. Et au verset 21, il est dit « Pendant qu'ils mangeaient, nous arrivons donc à la Pâque finale que notre Seigneur a célébrée avec ses disciples. Maintenant, gardez à l'esprit que le Seigneur s'est engagé à célébrer la Pâque. En fait, il nous est dit dans Matthieu 3, 15, qu'il est venu pour accomplir toute la justice et entrer à la loi de Dieu. Et l'un des éléments de la loi de Dieu était de garder la Pâque. Ainsi Christ voulait être obéissant. Luc 22, 15 en parle, et soit dit en passant, Matthieu, Marc, Luc et Jean décrivent tous cette scène d'une manière ou d'une autre, sous un angle ou un autre. Ainsi, dans Luc 22, verset 15, cela nous dit que Jésus avait, et le mot est un peu comme cela en grec, il avait un grand et intense désir de célébrer la Pâque avec ses disciples. Donc c'est très important pour lui. Et nous verrons pourquoi c'est important, en y penchant un peu plus. Il fallait donc préparer la Pâque que Jésus voulait célébrer. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu d'histoire. Les Juifs avaient une année remplie de fêtes spéciales, pas très différentes de notre époque. Nous avons aussi des coutumes en tant que chrétiens. Il y a Noël et Thanksgiving, ainsi que le Vendredi Saint et Pâques. Et certaines autres églises célèbrent même d'autres choses pendant l'année. Des vacances spéciales, des jours saints spéciaux, des journées spéciales tout au long de l'année. Et les Juifs n'étaient pas différents. Ils ont fêté leur célébration commémorative, leur fête, pour commémorer l'œuvre de Dieu. Maintenant, laissez-moi juste vous rappeler ce à quoi ressemblait leur calendrier de fêtes de base. Il y avait, par exemple, la fête de la Pentecôte, ou la fête des semaines, comme ils l'appelaient aussi. Et cette fête particulière devait célébrer la provision de Dieu dans la moisson. Ils célébraient le fait que Dieu avait répondu à tous leurs besoins par les récoltes. Ainsi, chaque année, à la Pentecôte, il y aurait ce merveilleux moment de célébration en se souvenant des dispositions de Dieu. Il y avait aussi la fête des tabernacles, et la fête des tabernacles, ou des tentes, était un festin pour commémorer leur errance dans le désert, quand ils vivaient dans des tentes, et comment Dieu avait pris soin d'eux, leur donnant de la nourriture et de l'eau dans le désert. Ils s'en sont souvenus, avec la fête des tabernacles. Et puis, il y avait une autre fête, appelée le jour des expiations. C'est un festival vraiment mis en valeur par un sacrifice dans le Saint des Saints. Un sacrifice, le sang apporté dans le Saint des Saints et aspergé sur l'autel. Et le souverain sacrificateur le faisait une fois par an pour expier les péchés de la nation. C'était un autre événement très important, sacré et saint. Et puis, il y avait la fête qui existe toujours, la fête des Lumières. Nous la connaissons sous le nom d'Hanouka. Cette fête commémorait la délivrance d'Israël sous la direction de Judas Maccabée, à l'époque entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, cela n'a été célébré que depuis cette date, depuis environ 167 avant Jésus-Christ, quand c'est arrivé. Et puis, il y a la fête des trompettes, qui est la nouvelle année. Donc, ce sont les principaux éléments du calendrier commémoratif juif. Mais au-delà de tout cela, la plus grande de toutes leurs célébrations à bien des égards, c'est la Pâque et la fête des pains sans levain. Les deux sont mentionnés au verset 17. Premièrement, la fête des pains sans levain, et à la fin du verset, le mot Pâque. À ce moment-là, c'était un festival de 8 jours. La Pâque et la fête des pains sans levain ont été combinées. La fête des pains sans levain a duré 1 semaine, du 15 Nisan au 21, conformément à l'Ancien Testament. C'était un festin de 7 jours. La veille, c'était la Pâque. Donc la combinaison des deux était une fête de 8 jours. En fait, ils étaient tellement liés dans l'esprit des personnes que la fête des pains sans levain pouvait être un terme décrivant l'ensemble des 8 jours, ou la Pâque pourrait être un terme décrivant l'ensemble des 8 jours. Ainsi, ils célébraient le repas de la Pâque le 14 Nisan, et ensuite, pendant 7 jours, la fête des pains sans levain. Et bien sûr, nous nous rappelons pour quelle raison c'était. La Pâque a célébré la délivrance de Dieu par Israël, en Égypte, où ils étaient depuis plus de 400 ans. Et vous vous souvenez, Dieu a commencé à envoyer des plaies sur les Égyptiens, et le dernier fléau a été la mort de tous les premiers-nés, dans chaque famille en Égypte. Et Dieu leur dit, « Si vous voulez tuer un agneau, et un agneau sans tache, et mettre le sang de cet agneau sur les poteaux et autour de la porte, quand l'ange de la mort vient tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, s'il voit du sang sur votre porte, il passera, et c'est la Pâque. Il passera au-dessus de votre maison, passera plus loin que votre maison, et épargnera la vie de votre fils premier-né. » Et, à la suite de cela, Pharaon a dit, « Partez, j'en ai assez, j'en ai marre. » Et il a renvoyé les Juifs, et Dieu les a finalement délivrés. Ainsi, la Pâque commémorait l'agneau sacrificiel dont le sang les avait fait échapper au jugement de Dieu. Et c'était un symbole de l'agneau de la Pâque ultime de Dieu, dont le sang les ferait éternellement échapper au jugement de Dieu. Et ainsi, Dieu a institué dans Exode 12 la fête continuelle de la Pâque. C'était un repas, et il a eu lieu la nuit avant le début de la fête des pains sans levain. Les temps anciens, c'était le premier mois de l'année appelé Abib. Mais après l'exil, il a été célébré au mois de Nisan, et la Pâque était le 14e jour. Le 15e jour de Nisan, il commençait la fête des pains sans levain. Par ailleurs, vous pourriez être intéressé de noter que l'agneau, selon Exode chapitre 12, devait être sélectionné le 10e jour de Nisan. Et je vous le dis, en étudiant le livre de Matthieu, je crois que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem le lundi. Son entrée triomphale était un lundi. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, cela correspond mieux à la chronologie des événements qu'à une entrée le dimanche. Deuxièmement, cela élimine le problème de ce que l'on appelait au cours des années un mercredi silencieux. Si vous avez le Christ qui entre le dimanche, il ne se passe rien mercredi de la semaine de la Passion. C'est un vide difficile à combler. Mais troisièmement, et peut-être de manière très significative, le lundi était le 10e jour de Nisan, en l'an 33 de notre ère, où notre Seigneur est mort. Et cela signifie que le lundi du 10e jour était le jour où tout le monde dans la ville de Jérusalem sélectionnait son agneau de la Pâque. L'agneau devait être sélectionné, emmené le 10e jour, et devait habiter avec la famille jusqu'à ce qu'il soit abattu. De sorte que lorsque cet agneau était abattu, il était abattu en tant qu'ami, si vous voulez, presque comme un animal de compagnie. Alors il comprenait le prix du péché. Et c'est important parce que si Jésus est entré dans la ville ce lundi-là, il est entré dans le cœur de ces personnes comme leur agneau de la Pâque, le jour approprié, et il remplit le symbolisme de l'agneau de la Pâque dans tous les esprits. En arrivant dans la ville le 10e jour de Nisan, pour s'offrir comme agneau de Dieu pour enlever le péché du monde, en mourant le 14e jour de Nisan, comme le sacrifice de la Pâque pour les péchés du monde. Ainsi, les Juifs avaient déjà choisi leur agneau à l'approche de ce texte. Ils l'avaient fait lundi. Maintenant, nous comprenons la Pâque. Ils ont sacrifié l'agneau pour commémorer l'ancien agneau. Ils ont sacrifié un agneau pour leur rappeler le prix de leur péché. Et vous rappelez-vous, n'est-ce pas, que Joseph nous dit qu'il y avait plus d'un quart de million d'agneaux tués à un moment de la Pâque. C'est incroyable de croire cela. L'impact serait profond. 2,5 millions de personnes, au moins, dans la ville de Jérusalem. Le massacre d'un quart de million d'agneaux, des agneaux qui avaient habité chez eux. Ils devaient être dans la maison pour que les personnes aient de l'affection pour eux, afin qu'ils voient le prix de leur péché et le terrible résultat de la mort de cet agneau.
Et puis le massacre était absolument remarquable, car tous ces animaux étaient abattus. Et comme nous le verrons dans un instant, ils ont été massacrés en 2 heures, ce qui rend le massacre presque ahurissant. Et une rivière de sang coulait à l'arrière du temple et descendait la pente de la colline dans la vallée du Kidron qui remplissait le ruisseau, et elle coulait de sang en direction de Bethléem. Donc pour eux, ce fut une période de l'année très dramatique, où ils étaient confrontés au péché et aux sacrifices exigés par le péché, etc. Et le Seigneur avait institué tout cela dans Exode 12, et cela a été répété plusieurs fois dans le Pentateuque. Ils devaient suivre et garder la Pâque. C'était donc une période glorieuse de sacrifice pour dépeindre la nécessité de la mort et du sacrifice de l'innocent pour l'expiation du péché pour le coupable. Maintenant, nous savons qu'aucun de ces agneaux ne peut enlever le péché, n'est-ce pas? Et c'était un exemple profond. Tous ces milliers d'agneaux ont été massacrés pour des millions de personnes, et tous combinés ne pouvaient pas enlever un seul péché. Et c'est le message des Hébreux, n'est-ce pas? Que tout ce que les agneaux, les chèvres et les taureaux ne puissent jamais faire, Jésus-Christ, en un sacrifice de lui-même, a fait pour toujours. Il l'a fait pour toujours. Donc, c'est cette période de l'année. Et la raison pour laquelle Jésus et ses disciples sont tous à Jérusalem, c'est parce que c'est la Pâque, et Jésus veut célébrer la Pâque et la fête des pains sans levain. Maintenant, la fête des pains sans levain est importante. Le pain sans levain est un pain qui ne gonfle pas, parce qu'il n'y a pas de levure. Les femmes hébraïques fabriquaient du pain, et elles en retiraient un morceau de pâte avant de le faire cuire au four, et elles le laissaient fermenter, et elles l'utilisaient dans un autre morceau de pâte qui finirait par se lever. S'il n'apportait pas cette levure, le pain ne se levait pas, et ce serait du pain sans levain. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, « Vous n'avez pas de pain au levain, vous ne prenez pas de pain au levain, parce que le levain représente l'influence. » Et il dit en effet, « Je ne veux pas que vous preniez un morceau de votre vie égyptienne et que vous l'implantiez dans votre nouvelle vie. Vous êtes délivrés de cela, et je veux créer un nouveau peuple dans un nouveau pays. Vous n'avez plus besoin de cette vie passée. » Donc, il ne voulait pas qu'ils apportent leur ancienne coutume, et il leur a donné un symbole, du pain sans levain. Vous ne devez manger que du pain sans levain, c'est-à-dire non influencé par votre ancienne vie. Cela devint un symbole, afin de se couper des choses du monde. Alors nous arrivons au verset 17, et c'est le jour, le premier jour où toute cette fête de 8 jours de pain sans levain commence. Et les disciples viennent à Jésus et ils disent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Et Marc ajoute, au chapitre 14, verset 12, où l'on immolait la Pâque. Ainsi, il nous dit très explicitement que c'est en ce premier jour, sur les 8 jours, que la Pâque a été sacrifiée. Et puis le pain sans levain a commencé le lendemain, qui était le 15 de Nisan. Il nous dit dans Lévitique 23, 6, qu'il devait commencer le 15. Maintenant, dans Exode, chapitre 12, verset 18 à 20, il est dit que le père de chaque maison devait parcourir toute la maison et enlever tout le pain au levain. Il commençait cela avant que quelque chose d'autre ne se produise et que tout le pain soit levé. Cela devait durer 8 jours. Tout commença par le débarras de tout le pain levé, et le premier événement fut le repas de la Pâque. C'était le premier événement. Maintenant, écoutez attentivement. L'année de la mort de notre Seigneur, la Pâque est arrivée le vendredi. Nous le savons parce que le texte nous le dit. La Pâque, c'était le 14e jour de Nisan. D'année en année, il tomberait un jour différent, tout comme Noël, ou, devrais-je dire, oui, Noël, ou le Nouvel An tombe un jour différent. Lorsque vous avez une date, le jour varie. Et dans ce cas, cela tombait sur des jours différents. L'année où notre Seigneur a été crucifié, la Pâque est tombée un vendredi. Vous dites, comment savons-nous cela ? Parce que dans Marc 15, 42, il est dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, le jour avant le sabbat était appelé par les Juifs le jour de la préparation. Pourquoi ? Il se préparait à quoi ? Pour le sabbat. Et comme il ne pouvait pas travailler le jour du sabbat, et qu'il ne pouvait pas préparer de repas le jour du sabbat, La veille était un jour de préparation supplémentaire. En fait, vous pourriez être intéressé de savoir que le terme « le jour de la préparation » est devenu leur mot pour vendredi. Vendredi était le jour de la préparation. Il n'y avait pas vraiment d'autre désignation. Et quand Marc dit au chapitre 15, verset 42, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, lorsque tous les événements de la mort de Christ ont eu lieu, nous savons donc que la Pâque est tombée, un vendredi. Regardez juste un moment, Jean 19, et ne vous sauvez pas. Tout cela va être très intéressant. Dans Jean 19, verset 14, encore une fois le texte dit, « Et ici, vous vous souvenez, Jésus est devant Pilate, il est jugé. Et quel jour est-ce? C'est la préparation. C'est le jour de préparation de la Pâque. Cela signifie que c'est à l'heure de la Pâque, et c'est le jour de la préparation. Cela ne signifie pas qu'il prépare la Pâque. Cela signifie que c'est le temps, pendant la Pâque, qui s'appelle la préparation, qui signifie le vendredi. Maintenant, allez au verset 31. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation. En d'autres termes, ils viennent de crucifier Jésus, et parce que c'est vendredi, ou le jour de la préparation, ils veulent que son corps soit descendu de la croix, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit là le jour du sabbat, qui est un jour spécial. Donc, encore une fois, ils se réfèrent au vendredi. Vous avez regardé le verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs. Parce que les Juifs ont insisté pour que cela se produise un vendredi. Il ne fait aucun doute, bien-aimés, que Jésus a été crucifié un vendredi. Ce doit être un vendredi. En l'an 30 et en l'an 33, ces deux années, le vendredi était le bon jour, le 15 de Nisan. Donc les 14 et 15 de Nisan, et nous verrons dans une minute que cela dépend de la façon dont vous comptez les jours. Mais ces deux années, 30 et 33, ont été les bonnes années pour que cela se produise un vendredi. Comme il est dit dans le texte que c'était un vendredi, nous devons regarder l'année où la fête a eu lieu un vendredi. Nous trouvons cela en l'an 30 et en l'an 33, et je me penche plus vers l'année 33, en tant que l'année de la mort du Christ, en raison de la chronologie des autres événements. Cela n'aurait pas pu être un jeudi, car le jeudi ne s'appelle pas une préparation. Le vendredi est une préparation. Cela n'aurait pas pu être un mercredi, parce que cela ne s'appelle pas non plus la préparation. C'était un vendredi. Et ainsi, nous verrons plus à ce sujet, alors que nous avançons. Le jour de la Pâque est tombé le 14, avant le vendredi du samedi 15, plutôt, qui commence la fête des pains sans levain. Maintenant, revenons à notre texte. Après avoir dit tout cela, ne vous trompez pas. Mais, comme nous arrivons au verset 17, c'est toujours un jeudi, d'accord? C'est toujours jeudi. Nous savons au sujet de mercredi. Le chapitre 21 à 25 nous a pris en compte, nous a pris le mercredi. Mais, nous avons passé le mercredi soir, dans la première partie du chapitre 26, Jésus parlant toujours à ses disciples. Donc, mercredi est enfin arrivé à son terme, et c'était un long mercredi. Maintenant, c'est jeudi matin, et il est temps de préparer le repas de la Pâque. Ils ont déjà leur agneau. Nul doute qu'ils l'ont eu le lundi, quand ils sont arrivés dans la ville. Ils ont déjà donc l'agneau. Mais il y a beaucoup de choses à préparer pour la Pâque. Savez-vous ce qu'ils devaient préparer? Ils devaient se préparer pour tuer l'agneau, qui ne pouvait se faire que dans la cour du temple, nulle part ailleurs. Et cela ne pouvait se faire que dans un délai de 2 heures, de 3 heures de l'après-midi à 5 heures du soir. Ils devaient préparer leur pain sans levain. Ils devaient prendre un bol d'eau salée, car, à la Pâque, ils posaient un bol d'eau salée sur la table pour leur rappeler leurs larmes coulées en esclavage et leur rappeler la mer Rouge qui se séparait lorsque le Seigneur les a délivrés. Ils devaient se procurer des herbes amères, comme le réforte et la chicorée et la bayotte, des endives et d'autres choses qu'ils allaient mélanger avec l'hysope pour leur rappeler l'amertume de l'Égypte et l'hysope avec lesquels ils répandaient le sang sur leurs portes. Ils avaient une pâte visqueuse faite de pommes, de dattes, de grenades et de noix écrasées dans une sauce épaisse appelée charosée. Et c'était dans cette sauce épaisse qu'ils trempaient leur pain sans levain, comme faisant partie du repas. À ce propos, on voit mieux cela comme un symbole de la fabrication de briques en Égypte, de l'argile et de la boue avec lesquelles ils mélangent les briques. Et ils mettaient également dans la charrette des bâtons de cannelle pour leur rappeler la paille, qu'ils utilisaient également dans la fabrication des briques. Donc, tout avait un symbolisme, Et puis, il y avait 4 coupes de vin. Et les 4 coupes de vin leur rappelleront l'alliance de Dieu dans Exode, chapitre 6. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Tout cela était symbolisé par les éléments de la Pâque qu'ils devaient recueillir et préparer. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'agneau devait être tué pendant une période de 2 heures. Si vous revenez à Exode 12, 6, il est dit qu'il devait être tué le soir. Mais l'Hébreu dit « entre les 2 soirs ». C'est très précis. Les Juifs eurent un début de soirée, à 3 heures du matin, et une fin de soirée, vers 17 heures. « Il a fallu tuer l'agneau, dit Joseph, entre la 9e et la 11e heure, c'est-à-dire entre 15 heures et 17 heures. La 12e heure était 18 heures, ou au coucher du soleil, donc l'agneau devait être tué entre 15 heures et 17 heures. Il devait être tué dans la cour du temple par les prêtres. Toutes ces personnes ont dû ramener tous leurs animaux et les tuer pendant ces 2 heures. C'est absolument stupéfiant d'imaginer ce qui s'est passé. C'est une scène incroyable. Il y avait du sang partout. Les personnes qui entraient avec des agneaux vivants sortaient avec des agneaux morts, s'assurant qu'ils avaient le bon agneau sur l'autel. Faisaient sortir de l'autel le bon agneau pour le rapporter chez eux. Il devait être rôti après cela. Puis après le coucher du soleil, ou plus tard dans la soirée, on ne sait pas à quelle heure, ils le font. Ils devaient manger le repas de la Pâque. Exode 12:8. Au moins 10 hommes devaient être là pour le manger, car ils devaient manger chaque morceau d'agneau et ne pas en laisser pour le matin. Et ainsi, ils ont mangé le repas ce soir-là. Maintenant, les disciples savent qu'ils doivent faire tout ce travail. Alors ils disent à Jésus, « Où allons-nous le préparer ? Les choses sont prêtes. Et nous serons heureux de le préparer, si tu veux juste nous dire où. Où allons-nous le préparer? Vous dites, pourquoi est-ce un problème? Pourquoi ne le préparent-ils pas à Béthanie où ils sont? Ce n'était pas possible. La loi dit que cela devait être dans la ville de Jérusalem. Donc tous ceux qui séjournaient à la périphérie de Jérusalem devaient entrer dans la ville et trouver un endroit où ils pourraient fêter la Pâque, avec un groupe d'au moins 10 hommes et un maximum de 20 personnes. Et cela signifiait que chaque coin de la ville était rempli. Et la question était, où allons-nous le faire? Nous ne possédons aucune propriété. Nous n'avons aucun bâtiment. Nous n'avons aucune installation. Qu'allons-nous faire? Et la réponse est absolument fascinante pour moi. Verset 18, Jésus a dit, allez à la ville chez un tel. Maintenant, laissez-moi vous parler du mot un tel. Nous l'appelons apax legomena. C'est la seule fois où il a été utilisé dans les Écritures. C'est le mot « deïna ». Il dit « allez à la ville et trouvez une deïna ». La meilleure façon de le traduire serait « monsieur un tel ». C'est un terme non descriptif qui est utilisé lorsque vous voulez être indéfini. Entrez dans la ville et trouvez un homme, un certain homme, monsieur un tel. Maintenant, vous avez 2 millions de personnes qui tournent autour de cet endroit. Et vous nous dites d'aller chercher monsieur un tel. Monsieur un tel ne remplace pas quelqu'un qu'ils connaissent. C'est un mot délibérément utilisé pour être indéfini. C'est comme s'il disait « Allez dans la ville et trouvez un homme dont je ne vais pas vous dire qui il est. » Et c'est précisément ce qu'il fait. Nous n'avons que 2 options. Soit Jésus a dit « Monsieur un tel » parce qu'il ne savait pas qui il était, ou parce qu'il ne voulait pas qu'il sache qui il était. Et je ne peux pas voter pour le premier. Il savait. Alors, il ne devait pas vouloir qu'il sache. Maintenant, comment vont-ils trouver monsieur un tel? Heureusement, Marc comble la lacune chez Matthieu ici. Et Marc dit que vous devez chercher un homme portant un pichet d'eau. Et nous dirions, oh, c'est d'une grande aide. Il est déjà assez difficile de trouver monsieur un tel, mais il ne nous reste plus qu'à trouver un homme avec un pichet d'eau. Est-ce que c'est commun? La réponse n'est pas commune du tout. Qui portait l'eau? Les femmes le faisaient. Donc vous trouverez un homme qui fait une chose inhabituelle, transporter de l'eau. Et quand vous trouvez cet homme, selon Marc chapitre 14, versets 13 et 14, Jésus a dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Nous savons également, d'après les autres comptes rendus, que le Seigneur, lorsqu'il a dit « Allez à la ville », a seulement dit cela à deux personnes, Pierre et Jean. Il n'a envoyé que Pierre et Jean, pas les autres. Les 10 autres disciples sont restés avec lui. Il n'a envoyé que Pierre et Jean. Il y avait plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'était que seules 2 personnes étaient autorisées à accompagner un agneau pour le sacrifier. Vous pouvez comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Si vous avez 2 heures pour tuer tous les agneaux et que tout le monde veut voir cela, vous ne pouvez pas le faire. Ainsi, seules 2 personnes pouvaient accompagner un agneau. Et Pierre et Jean sont choisis parce qu'ils sont les intimes de Christ, car ils sont tellement pleins de confiance. Ils sont ses chers amis. Et ainsi, il envoie Pierre et Jean, leur dit « Allez trouver un homme avec un pichet d'eau. Suivez-le dans la maison de Monsieur Untel. Maintenant, vous dites, pourquoi tant de secrets? Pourquoi l'approche clandestine? Pourquoi ne dit-il pas simplement « Vous vous souvenez d'un tel, de notre ami et de votre disciple? Vous savez où est sa maison, là-bas, dans telle ou telle rue? C'est là que nous allons le faire. » Non, il ne dit pas cela. Pourquoi garder le secret? Je vais vous dire, pour une raison très simple. Judas Iscariote. Regardez le verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour quoi? Le mot grec est « le livrer ». Judas cherchait un endroit tranquille, un endroit isolé, un endroit privé, loin de la foule, où il pourrait remettre Jésus aux autorités religieuses pour être exécuté. Et Jésus savait que si Judas savait où le repas allait être, ce serait l'endroit parfait. Et donc, il ne le dirait pas. Et Pierre et Jean ne sont jamais revenus. Ils sont partis tôt dans la journée, ont fait tout cela. Et le reste des disciples ne les ont jamais revus jusqu'à cette nuit où ils sont venus sur la place avec Jésus. Et à ce moment-là, Judas était dans le coup, mais c'était trop tard pour négocier avec les dirigeants. Jésus a exclu la possibilité que Judas le trahisse avant la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il était essentiel que Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Vous dites, pourquoi était-ce essentiel? Parce qu'il voulait utiliser cela comme exemple de sa propre mort. Parce qu'il voulait transformer cela en le dernier repas de Jésus et la table de communion que nous connaissons et aimons en tant que mémorial à sa mort. Parce qu'il avait encore beaucoup à enseigner aux disciples. Parce qu'il voulait leur donner la promesse de son Saint-Esprit et que ce n'était pas encore le temps pour Dieu de mourir. Et ainsi, il ne permettrait pas à Judas de faire ce qu'il aurait fait s'il en avait eu l'occasion. La première fois que Judas en a eu l'occasion, c'est quand Jésus était dans le jardin, avec les 12, et vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Judas était là avec les soldats, et ils ont pris Jésus. Et il l'aurait fait ici, mais Jésus ne lui a jamais fait savoir où cela allait se passer. Ainsi, il ne l'a dit à personne pour que Judas ne le sache pas. Et alors le Seigneur dit, « Quand vous entrez dans la maison, et nous retrouvons cela dans Matthieu, et vous rencontrerez l'homme qui est propriétaire de la maison, dites-lui. » Verset 18. Le maître dit, « Dites-lui, Didaskalos, le maître, le rabbin, et il saura de qui vous voulez parler. Il devait être l'un de ses disciples. Peut-être que Jésus avait même arrangé cela avec lui, je ne le sais pas. Nous n'avons aucune information à ce sujet. Mais dites-lui simplement que le maître dit, et il saura, il le saura. C'était un disciple du Christ, un amoureux du Christ, un croyant en Christ. Et nous ne savons pas qui c'est. Certaines personnes ont spéculé ceci et cela, mais nous ne savons tout simplement pas. Et dites-lui ceci, mon heure est proche. Le temps, pas chronos, pas l'heure chronologique, pas l'heure sur l'horloge, mais kairos, le temps épique, le moment de l'événement, le moment spécial, le moment de ma mort, mon moment spécial dans le plan de Dieu est là. Maintenant, cela va arriver, et il comprendra. Il comprendra. Oh, combien de fois Jésus a-t-il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Combien de fois l'Écriture a-t-elle dit « Son heure n'est pas encore venue ». Mais maintenant il dit que « Son heure est proche ». Vous venez de lui dire cela, et dites-lui ceci, « Je dois manger la Pâque chez toi avec mes disciples. C'est un cadeau prophétique qui oblige. Je suis obligé de célébrer la Pâque chez toi avec mes disciples. Il se voit en mission divine avec un horaire divin. Il doit le faire. Il doit le faire maintenant. C'est le moment. Il est temps. » Et Marc nous dit que l'homme avait un grand deuxième étage, une grande pièce spacieuse, meublée et prête à être utilisée. Et c'était commun dans les grandes maisons. Donc Jésus était obligé de manger la Pâque. Le verset 19 dit, « Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Il y a un mot intéressant. Il est dit « ordonner ». C'est vraiment un terme militaire. Cela a une saveur militaire. Cela leur a été commandé. Et ils préparèrent la Pâque. Pierre et Jean sont allés en ville. Ils ont vu l'homme avec le pichet. Ils l'ont suivi dans la maison et ont demandé l'homme. Il a dit « Nous allons le faire ici. Préparez tout. Mettez tout ensemble. » Maintenant, à ce stade, nous devons nous arrêter un instant et je veux que vous écoutiez très attentivement ce qui constitue une compréhension essentielle dans ce passage. Est-ce que vous avez vu au verset 17, à la fin, que la question était « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et remarquez la fin du verset 19, « Et ils préparèrent la Pâque. » Et le verset 21, « Pendant qu'ils mangeaient. » Maintenant, en mettant ces trois versets ensemble, que supposez-vous qu'ils mangeaient ? La Pâque, d'accord ? Et c'est très clair, abondamment clair, c'est la Pâque. Si vous regardez Marc 14, vous trouverez au verset 12, 14 et 16 le repas que Jésus a mangé, s'appelle la Pâque. Si vous regardez Luc 22, versets 7, 8, 11, 12, vous trouverez que le repas que Jésus a mangé s'appelle la Pâque. Et donc, vous dites, cela ne fait aucun doute que c'était la Pâque. Cela ne fait aucun doute que c'était la Pâque. Mais il y a un problème, et je veux vous faire part de ce problème auquel les spécialistes de la Bible ont été confrontés au fil des ans. Laissez-moi vous montrer quel est le problème. Retournez dans votre Bible, à Jean 18. Et je veux que vous remarquiez le verset 28. Là encore, Jésus conduit à Caïphe, c'est le lendemain soir, soit dit en passant. Le jeudi, ils préparaient le repas, n'est-ce pas? Le jeudi soir, ils ont mangé le repas. Ce qui signifie que l'agneau a été tué le jeudi après-midi. Nous venons de regarder le jeudi où ils sont venus à Jésus. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il dit, allez faire ceci, préparez-le. Le jeudi après-midi, ils ont tué l'agneau. Le jeudi soir, Jésus est venu avec les 10 autres. Ils ont mangé le repas. Toute la soirée a eu lieu le jeudi soir. Avec notre décompte des jours, ce serait un jeudi soir. Alors vous vous souvenez, Judas sortit dans la nuit et le trahit. Jésus a quitté le repas au milieu de la nuit, est allé au jardin. Les soldats sont venus au jardin, l'ont capturé au milieu de la nuit. Maintenant nous arrivons à l'aube, le vendredi matin, et ils le font juger. Et c'est le vendredi matin. Il a déjà sacrifié l'agneau le jeudi après-midi. Il a déjà mangé la Pâque. Maintenant nous arrivons au vendredi matin, et les Juifs ont Jésus. Ils le conduisent à Caïphe dans le prétoire. C'est Pilate. C'est la partie païenne de son procès. Il est encore très tôt le matin. Les Juifs ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés dans le prétoire de peur qu'ils ne soient souillés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était un endroit païen, et ils ne voulaient pas se faire souiller par des païens. Pourquoi? Le verset 28 dit à la fin, « Et de pouvoir manger la Pâque ». Maintenant, le problème réside chronologiquement. Comment se fait-il que Jésus ait déjà tué un agneau, ait déjà eu le repas de la Pâque, que la nuit tombe, les aurores du matin, que les Juifs ne veulent pas se faire souiller parce qu'ils n'ont pas encore mangé la Pâque? Et certaines personnes disent, Jésus a eu une Pâque privée. Cela ne pouvait pas arriver. Vous ne pouvez pas avoir une Pâque privée, car les agneaux ne peuvent être tués que lorsque le temps autorisé pour tuer les agneaux a lieu. Alors, comment se fait-il qu'ils n'aient pas mangé la Pâque? Vous dites, ils sont un peu en retard, ils ont été occupés. Maintenant, ils sont très religieux. Regardez le chapitre 19, verset 14. Il est dit dans le chapitre 19 et le verset 14, c'était la préparation de la Pâque. C'est le vendredi. C'était à peu près la 6e heure, et ainsi de suite. Maintenant, cela nous dit que nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi, et les Juifs n'ont pas encore mangé la Pâque. Ils n'ont pas fait ce que Jésus a déjà fait. Maintenant, comment pouvons-nous résoudre ce problème? La question se pose. Comment le Seigneur peut-il manger la Pâque le jeudi soir et les Juifs ne l'ont pas mangé? Ils doivent avoir leur propre Pâque. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, laissez-moi vous dire ceci. Christ est venu mourir en agneau pascal, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de Matthieu 26, et je pense que c'est le verset 47 où il est dit. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani. » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous vous souvenez de cela. Et puis il est mort. Jésus est mort le vendredi, entre 15h et 17h. La 9e heure serait quelle heure? 15h. À 15h, Jésus est arrivé à la fin de sa vie. au moment très précis où les cris de ses brebis venaient du temple, alors que le massacre commençait. Les Juifs, les chefs, qui étaient pour la plupart des Sadducéens, les Judéens, massacreraient tous ces agneaux au moment même où Jésus mourrait. Il est mort, 1 Corinthiens 5-7 dit, comme Christ notre Pâque, qui a été sacrifié pour nous. Je crois que Jésus est entré dans la ville le jour où l'agneau a été choisi. Je crois qu'il est mort le jour traditionnel où les agneaux ont été massacrés, de 15h à 17h, afin de remplir chaque prophétie et chaque image à la lettre. Vous dites, alors que fait Jésus avec la Pâque le jeudi soir? La réponse est la suivante, et je pense que c'est une réponse absolument fascinante. Certaines personnes disent, ce n'était pas la Pâque. Jésus était juste en train de dîner, c'était juste un repas. Le problème, c'est qu'il continue de l'appeler la Pâque. Et si vous voulez aller au-delà, laissez-moi vous dire ceci. Jésus a insisté pour que ce soit à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Si c'était juste un autre repas, il aurait pu l'avoir à Béthanie et éviter énormément de problèmes. Pourquoi l'avoir dans la ville? Parce que la tradition disait que la Pâque devait avoir lieu à l'intérieur de la ville de Jérusalem. En outre, il était très inhabituel que des Juifs prennent un repas la nuit. De plus, avoir des fauteuils inclinables était très inhabituel pour autre chose qu'un festival ou une fête, pas seulement pour un repas normal. En plus, lors d'un repas normal, la fraction du pain était au début du repas, et la voici au milieu du repas. De plus, l'utilisation du vin rouge était très inhabituelle, et c'était inhabituel de chanter un hymne quand ils en avaient fini, ce qui était le cas pour la Pâque. Et de plus, lorsque Judas est parti, vous vous en souvenez plus tard, et les disciples pensaient qu'il allait donner de l'argent aux pauvres, parce que c'est ce qu'il faisait à la Pâque, pas un autre moment. Donc tout se rassemble pour dire que cela devait être la Pâque. Si c'était la Pâque, pourquoi est-ce un autre jour? Voilà la réponse, et c'est merveilleux. Tout dépend de la façon dont vous comptez les jours. Comment compte-t-on les jours? De quel jour à quel jour? De minuit à minuit, c'est un jour, n'est-ce pas? Je veux dire, le prochain lundi commence ce soir à minuit. Nous allons de minuit à minuit. Il ne le faisait pas. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options. Leur journée pour les Juifs, aller du coucher du soleil au coucher du soleil, ou du lever du soleil au lever du soleil. La routine des jours pour les Juifs était le lever du soleil au lever du soleil suivant. Mais les festivals, les jours spéciaux et le jour du sabbat commencent du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Et donc cela dépend de votre façon de voir le jour. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Cela me fascine. La fête des pains sans levain, selon Exode 12-18, devait être célébrée du coucher du soleil au coucher du soleil suivant, pendant ces 7 jours. Donc ces jours ont été marqués comme des jours de coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Le jour des expiations était un jour de coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Le sabbat hebdomadaire, d'un coucher de soleil au coucher du soleil suivant. Et ces temps, par exemple, comme Lévitique 11, 14, 15, 17, Lévitique 22, 6, où il est question d'une purification spéciale ou d'une cérémonie spéciale, tous ces jours où il y avait de l'impureté pendant un seul jour, une purification devait être faite avant le coucher du soleil. Donc ces jours allaient du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Il semble donc que lorsqu'il y avait un jour spécial, un sabbat spécial ou certains jours de fête, il devait aller du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil suivant. C'est peut-être parce que l'ordre de la création semble avoir été ainsi. Je remarquais cela quand je regardais dans la Genèse. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Ce qui serait de dire que Dieu commençait en partant du soir au soir suivant. Mais d'un autre côté, les Juifs comptaient aussi le lever du soleil au lever du soleil suivant, comme un jour calendaire normal. Et nous tombons dans cette chose, dans notre pensée, même si nous disons de minuit à minuit. Notre journée commence vraiment quand nous nous levons le matin. Et ainsi leur journée serait du matin au matin suivant. Par exemple, dans Matthieu 28, verset 1, il est dit ceci. Après le sabbat, écoutez, à l'aube du premier jour de la semaine. Maintenant, nous apprenons que l'auteur dit que le premier jour de la semaine commence à l'aube. Donc, ils sont revenus à leur mode de comptage habituel. Maintenant, où est-ce que cela nous mène? Cela dit simplement qu'il y a eu des moments où ils ont compté du coucher du soleil au coucher du soleil suivant, et des moments où ils se réfèrent à un jour comme commençant avec le lever du soleil au lever du soleil suivant. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament. Vérifiez Deutéronome 16:4, où le jour commence le matin. Maintenant, accrochez-vous. Par conséquent, ce jour de la Pâque, puisqu'il n'est pas nécessairement prescrit spécifiquement dans l'Ancien Testament, ce jour de la Pâque peut être calculé du coucher du soleil au coucher du soleil suivant, ou du lever du soleil au lever du soleil suivant. Et en fonction du moment où vous commencez, ce serait quand vous l'avez terminé. Joseph, le grand historien juif qui était pharisien, vivant à l'époque de Jésus, a expliqué la loi de la Pâque, et il a dit que l'agneau pascal devait être mangé pendant la nuit et qu'il ne reste plus rien au matin. Le Mishnah dit qu'il doit être mangé à minuit. Donc tous les deux étaient attachés au fait que quiconque le mangeait, il fallait le manger avant l'aube du jour suivant, avant l'heure du matin. Maintenant écoutez très attentivement. En creusant un peu cette histoire, et c'est ce que j'ai trouvé fascinant, les Galiléens, les personnes du Nord et les pharisiens ont compté le jour du lever du soleil au lever du soleil suivant, le jour de la Pâque, alors que la Judée et les Sadducéens l'ont compté du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Vous dites, comment savez-vous cela? La Mishnah, qui est la codification de la loi juive, nous le dit. Il est dit, par exemple, que les Galiléens ne travaillaient pas du tout le jour de la Pâque. Pourquoi? Parce que le jour a commencé pour eux au début. Il dit que les Judéens travaillaient jusqu'au midi, car la journée n'a pas commencé pour eux, avant le coucher du soleil. Maintenant, écoutez très attentivement. Le jeudi, les Galiléens et les pharisiens commencent à calculer le début de la Pâque. Dans la matinée, au lendemain matin, qui est le vendredi matin, les Judéens et les Sadducéens ne commencent pas leur journée avant le jeudi soir au coucher du soleil, et elle se déroule jusqu'au vendredi soir au coucher du soleil. Ainsi, les Galiléens et les pharisiens commencent tôt dans la journée, comme le souligne Matthieu au chapitre 26, avec les disciples disant « Seigneur, comment pouvons-nous préparer le repas ce soir ? Du matin au matin. Il doit être mangé avant la fin de la journée. Il faut donc le manger ce soir-là. L'autre jour, pour les autres, ne commence pas avant le soir, et ils ne sont donc pas prêts à tuer leur agneau avant le lendemain soir, puis à manger leur repas le jour du sabbat, le vendredi soir. Et cela est soutenu, comme je l'ai dit, par la codification de la loi juive, qui nous dit que les Galiléens ne travaillent pas du tout le jour de la Pâque, et que les autres travaillent une demi-journée, parce que cela n'a commencé que le soir. Maintenant vous dites, qu'est-ce que tout cela signifie? Écoutez attentivement. La première chose qu'il fait, c'est d'harmoniser Jean 18 et 19, car il nous dit que les Galiléens, donc Jésus et ses disciples, et les pharisiens, pourraient avoir leur Pâque le jeudi soir, car ils ont déjà commencé à compter le jour du matin au matin, et cela se terminerait vendredi matin. Et les autres, qui étaient originaires de Judée et qui étaient sadducéens, qui faisaient les règles, ne commenceraient pas leur festivité jusqu'à tard le jeudi soir, et ne tueraient leur agneau que vendredi, en fin de journée. Maintenant vous dites, pourquoi est-ce important? Écoutez-moi, c'est étrange que ce soit comme cela, c'est très étrange, et nous ne pouvons pas vraiment identifier spécifiquement comment cela s'est passé. Mais ce qui me fascine, c'est ceci. Écoutez très attentivement. Jésus devait mourir le vendredi. Il a dû être crucifié le vendredi, parce que les agneaux traditionnels de la Judée de Jérusalem seraient tués vendredi, de 15h à 17h. Il devait mourir à ce moment-là. C'est pourquoi il est dit, à la 9e heure. Il devait aussi fêter la Pâque, parce qu'il devait la transformer en repas du Seigneur. Alors, comment Jésus pouvait-il garder la Pâque et être encore l'agneau de la Pâque? Il n'y aurait absolument aucune possibilité, à moins que Dieu ne permette que ce genre de choses se passent dans l'histoire, de sorte que, au moment même où Jésus allait mourir, cette année-là, il n'y avait aucun problème à avoir, le jeudi soir, une Pâque galiléenne, mourant parfaitement dans les délais prévus, lors de la Pâque judéenne, le vendredi après-midi, en ne violant aucune loi juive. Et ce qui est encourageant, c'est que les Juifs étaient heureux d'avoir cela. Les prêtres l'étaient parce qu'il serait presque impossible de tuer tous les agneaux pendant la même période de 2 heures. Si les Galiléens sont arrivés le jeudi et que les Judéens sont arrivés le vendredi, au moins le travail serait divisé en deux jours, et ils pourraient atteindre leur objectif. Donc ils étaient contents de cet aménagement. En outre, s'il était difficile de trouver une salle à Jérusalem pour prendre votre repas de la Pâque, il serait approprié de doubler la capacité de Jérusalem en ayant deux périodes distinctes. Écoutez, quand vous regardez la parole de Dieu et que vous pensez que Jésus est victime de l'ingéniosité humaine, vous avez une mauvaise approche. Dieu régit littéralement l'histoire, la tradition et les coutumes, et chaque détail de l'existence humaine pour réaliser son propre plan parfait. Et Jésus devait garder la Pâque pour accomplir toute la justice, instruire ses disciples, leur montrer la nouvelle fête commémorative qui sortirait de la Pâque. Et pourtant, il devait mourir en tant que Pâque. Et il a fait les deux parce que Dieu était si ému dans l'histoire que les deux étaient possibles par sa souveraineté et son contrôle. Alors, quand on regarde l'histoire de Jésus-Christ, on ne voit rien d'autre qu'une victime, n'est-ce pas? Et Matthieu est capable de nous présenter dans ces trois brefs versets la majesté qui est absolument au-delà de notre capacité à comprendre. Ce n'est pas quelque chose que Jésus aurait pu organiser durant un week-end. Le plan a dû être construit pendant des siècles afin que cela puisse arriver. Ainsi notre Seigneur, en parfaite harmonie avec le plan divin de développement de Dieu, contrôle chaque chose dans sa propre séquence d'événements, menant la croix. C'est le Fils de Dieu majestueux, glorieux, digne et vivant, notre Sauveur. Et il ne perd rien au milieu de sa trahison, au milieu de ses meurtriers. Il ne perd aucune dignité. Il maintient la majesté de sa personne en contrôlant tout ce qui se passe. Ce n'est que le début. Dimanche prochain, nous regarderons cette Pâque et verrons comment le Seigneur l'a transformée en sainte scène. Et au fait, dimanche prochain, nous allons aussi célébrer le repas du Seigneur. C'est le dimanche de la communion. Donc je sais que vous voudriez être ici. Prions. Notre Père, nous te remercions pour les grandes vérités que nous avons vues dans ta parole, pour que nous sachions encore que tu maîtrises tout. Oh, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, ô Dieu. Père, nous savons aussi qu'il peut y avoir certains ici qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le Christ souverain, le majestueux Christ glorieux et digne, celui qui est venu mourir pour les péchés du monde, qui contrôlait chaque élément de sa propre mort pour y arriver. Ô Dieu, que cela soit le jour où ils connaîtront Jésus-Christ, recevront son pardon. Bienheureux Père, nous prions pour que ce jour ne passe pas demain, avant que tous soient venus à toi pour le pardon.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.